Bonsoir à tous, bienvenue dans 60 minutes, qui sera plutôt 50 minutes ce soir. En voici le sommaire, ravi de vous retrouver. Les derniers espoirs de paix ont-ils définitivement volé en éclats aujourd'hui après les nouvelles frappes russes sur l'Ukraine? Déluge de feu la nuit dernière sur Kiev, des drones, des missiles lancés par centaines. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 17 civils tués, dont plusieurs enfants. Un bâtiment de l'Union européenne a également été touché. Nos spécialistes et nos invités en plateau dans un instant, puisque c'est bien sûr l'événement du jour. Dans l'actualité également, François Bayrou qui tente de déminer après ses propos polémiques sur l'opposition qui était en vacances cet été pendant qu'il préparait le budget. Ce n'était pas un reproche, dit-il aujourd'hui. La méthode Bayrou peut-elle encore fonctionner? Ce sera notre débat du jour. Avec notamment la patronne de la CFDT, Marie-Lise Léon, et l'ancien ministre du budget, Éric Woerth. Et puis, la gauche est-elle vraiment prête à gouverner? Si François Bayrou prend la porte dans quelques jours, les divisions sont-elles trop importantes? On pose la question tout à l'heure à notre invité, le député ex-insoumis François Ruffin. 60 minutes d'info, c'est parti, soyez les bienvenus. C'est l'événement du jour et une nouvelle fois, il nous conduit donc en Ukraine. Des immeubles en plein cœur de Kiev, la capitale, réduits en gravats ou en poussière, d'autres littéralement coupés en deux. C'est une pluie de missiles et de drones russes qui s'est abattue sur la capitale ukrainienne. Le dernier bilan, qui pourrait encore s'alourdir, est d'au moins 17 morts, 17 civils, parmi lesquels 4 enfants. Emmanuel Macron dénonce la terreur et la barbarie de la Russie. Les images et les principales réactions tout d'abord, c'est l'événement du jour. Il est signé Stéphanie Zenati et Sophie Herbet.
L'Ukraine a de nouveau été touchée en plein cœur cette nuit, nouvelle vague de frappes russes.
Des immeubles d'habitation qui ont été visés au cours de la nuit. Les habitants décrivent une nuit d'horreur.
Вибух произошел дуже быстро. Вікна повилітали.
Un déluge de feu, hein. 598 drones, 31 missiles.
Non seulement c'est une frappe sévère, mais c'est un choix délibéré d'escalader et de se moquer de tous les efforts de paix.
Un bâtiment de la mission de l'Union européenne a même été touché.
Il y a des dégâts, donc il y a des cloisons soufflées, il y a des parois qui sont tombées, il y a des meubles détruits.
Emmanuel Macron ce matin, qui dénonce sur Twitter la terreur et la barbarie de la Russie.
We will come forward soon with our 19th package of hard-biting sanctions.
C'est aussi un message assez clair envoyé par les Russes pour dire les garanties de sécurité et l'intégration européenne de l'Ukraine, c'est non.
Kiev sous un tapis de bombes, on va en parler tout de suite avec nos invités. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Journaliste défense à la rédaction de BFM TV. Bonsoir Général Patrick Dutartre.
Bonsoir Marc Ouvel.
Général de l'armée de l'air, ancien leader de la patrouille de France. Didier François, d'abord, est-ce que ces frappes, c'est la réponse de Vladimir Poutine au sommet de Washington il y a quelques jours?
En fait, c'est la continuation de sa ligne. Enfin, il n'a jamais arrêté de frapper. Il est venu en Alaska pour dire une chose, obtenir une chose, que Donald Trump abandonne l'idée d'un cessez-le-feu avant les négociations.
Il a gagné, d'ailleurs.
Et ce qu'il a obtenu, puisque en fait, c'est quand même ce qui avait été négocié avant avec Steve Witkoff, qui était l'envoyé spécial des Américains, qui avait discuté de ça avec les négociateurs russes. Donc, il y avait un plan qui commençait par un cessez-le-feu, ce dont Poutine ne veut pas entendre parler. Donc on est bien dans la logique et dans la continuation de la mise sous pression non seulement de l'Ukraine, de l'Europe, mais y compris de Donald Trump. Parce que d'un certain point de vue, on voit bien que... Enfin, d'un certain point de vue, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Donc Poutine veut bien parler de paix de manière extrêmement vague et très verbale, mais dans la réalité des faits, ben, ça continue de frapper, ça continue d'avancer, ça continue de pousser. Mmh. On a Lavrov qui arrive avec son t-shirt Union soviétique.
Bon, voilà. Le ministre russe des Affaires étrangères. Voilà. Ouais. Un bâtiment de l'Union européenne, je disais tout à l'heure, a été touché, soufflé par l'explosion. Est-ce qu'il était visé? Est-ce qu'on peut en être sûr?
Non, honnêtement, on n'en peut pas en être sûr. De toute manière, enfin, les missiles qu'ils utilisent sont assez puissants, sont lourds, ils sont en nombre, ils sont pas très précis.
Ouais.
En revanche, franchement, ce serait idiot de dire ils ont visé l'Union européenne. En fait, que ça touche l'Union européenne ne les dérange en rien. C'est-à-dire que le risque pris d'abord de taper des civils, parce que c'est quand même ça, quand on tape sur une ville de cette façon-là, c'est une guerre des villes. Il n'y a pas de ciblage sur des objectifs militaires précis. On est sur une frappe où ils acceptent de prendre. On est sur une volonté d'essayer de briser le moral des Ukrainiens, ce qui d'ailleurs est peut-être pas obligatoirement ce qu'ils vont obtenir, puisque quand ils le font sur le front, ça peut fatiguer, mais finalement, de plus en plus, les gens à Kiev, quand j'y étais au printemps, avaient depuis longtemps l'impression que la guerre était loin. Il y avait une vraie difficulté pour les Ukrainiens à recruter, par exemple, chez les jeunes, etc., pour aller au front. Parce que les gens avaient l'impression que finalement, bon, mais c'est relativement stabilisé, que l'armée faisait son boulot et qu'eux pouvaient continuer. Mais là, ça se rapproche quand même. Les gens [S2] Ouais. [S1] Voient bien qu'il y a une volonté russe de continuer de pousser. Et donc, ça change un tout petit peu, là, pour le coup, la détermination, et pas dans le sens que voudrait la Russie. Les Ukrainiens ne sont pas en train de lâcher, ils sont en train de s'inquiéter.
Général Dutartre, 17 morts, bilan encore provisoire, 17 civils tués par ces frappes, l'une des plus meurtrières de ces derniers mois. Quels sont les sites à Kiev qui ont été touchés?
Alors, ce qu'il y a eu cette nuit, c'est à peu près 600 missiles Shahed, hein, et puis une trentaine de... Enfin, pas missiles, mais drones que l'on connaît bien maintenant. Ça, c'est des petits drones qui font des dégâts modérés, qui sont relativement bien interceptés. Et ce qui fait mal aussi, c'est 30 missiles. Alors, il y a trois types différents. Il y a des missiles qu'on appelle Iskander, qui sont des missiles balistiques. Et c'est peut-être ceux-là qui ont fait autant de dégâts.
Ce sont les jaunes sur la carte, c'est ça?
Alors, c'est possible, oui. Il faut regarder en détail. Alors, là où il y a
les jaunes, ce sont les drones. Les bleus, ce sont les missiles.
Oui, c'est ça, oui. Là où il y a le plus de nombre, ce sont les Shahides. Ensuite, vous avez les Iskander. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu une dizaine. Ceux-là, ils font beaucoup de mal, hein, parce qu'ils ont une charge militaire importante. Et il y a un troisième type de missile qui est important. C'est les KH-101. C'est-à-dire, c'est des petits missiles de croisière. Et puis, enfin, il y a eu un ou deux tirs de Kindal. Kindal, c'est une sorte de missile qui est mis sous le MiG-31 et puis qui est envoyé en balistique et qui arrive très très vite. Normalement, c'est un missile hypersonique. En fait, il n'est pas si hypersonique que ça, mais il arrive quand même Mach 3.5, difficile à intercepter.
Qu'est-ce qui est le plus dévastateur? Ce sont les drones ou les missiles?
Ce sont les missiles. Ce sont les missiles parce que les drones ont des charges militaires moins importantes. Surtout, ils ont un temps de trajet beaucoup plus long et ils ont une vitesse très faible. Donc, cette vitesse, on peut l'intercepter soit au canon, soit par des drones anti-drones. Ça, c'est assez nouveau et ça commence à bien marcher. Et soit par des chasseurs aussi. Les chasseurs type F-16 ou Mirage 2000 interceptent de manière préférentielle les missiles de croisière. Vous savez, ceux qui volent à 800 km/h.
Est-ce qu'on a une idée du stock de missiles et de drones de l'armée russe? Est-ce qu'il est illimité à partir du moment où le pays a mis son économie au service de la guerre?
Ben oui, vous avez la réponse dans la question, en fait. C'est qu'effectivement, le pays a mis son économie pour produire ce genre de choses. Donc, on sait qu'ils produisent un nombre de Shahid ou équivalent russe assez considérable. Mm-hmm. Par contre, on pense qu'ils sont quand même limités dans les Kindal, pour ça qu'il y en a deux qui ont été tirés, dans les Iskander, ils avaient beaucoup de stocks. Ils ont encore pas mal de KH-101, donc ces missiles de croisière type Storm Shadow que l'on a en France.
Deux déclarations, Didier François, de la part du Kremlin aujourd'hui. Le Kremlin qui dit tout d'abord « Non, nous n'avons pas visé de civils ». Ce sont uniquement des sites militaires qui ont été visés, voilà pour les guillemets qu'on n'a peut-être pas entendu dans ma voix, mais que vous ajoutez évidemment. Et le Kremlin qui dit, la déclaration peut paraître assez surréaliste, tout cela ne remet pas en cause le processus de négociation en cours.
Oui, mais parce qu'en fait, le Kremlin, quand nous on dit négociation, on pense cessez-le-feu, paix. Le Kremlin, pas du tout. Ils l'ont dit, mais encore une fois, donc le ministre des Affaires étrangères, effectivement, vous avez raison de le rappeler, Lavrov l'a dit très clairement toute la semaine dernière, parce que c'est lui qui parle officiellement pour Vladimir Poutine, qui lui ne dit rien et ne veut pas essayer de se mettre en difficulté avec Donald Trump. Mais il l'a dit clairement, on continuera à frapper. Et, enfin, eux, ils veulent une capitulation. Ils ont réussi à obtenir l'abandon, pour l'instant, de l'idée d'un cessez-le-feu pour, soi-disant, avoir un plan de paix global. Alors ça, c'est en train d'être négocié, mais ça prend du temps, évidemment.
Et quand vous dites que c'est en train d'être négocié, c'est-à-dire que même si, évidemment, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ne se sont pas vus, ne sont peut-être pas prêts de se voir, il y a des contacts aujourd'hui
Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a... Oui, d'abord, hier soir, finalement, les pays de l'OTAN et du groupe, enfin, les militaires européens ont finalement se sont mis d'accord sur les options à proposer aux Américains sur une possible force de réassurance en cas de, enfin tout ça avec beaucoup de conditionnels. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a y compris un émissaire français, il y a des réunions au niveau des responsables des conseillers sécurité des différents présidents. Donc là aujourd'hui, le Français rencontre Witkoff. Demain, Witkoff rencontre deux responsables ukrainiens à New York, puisqu'il y aura le Umerov qui est le patron du Conseil de sécurité et Yermak qui discuteront de l'ensemble. En fait, ils sont en train d'essayer de trouver aujourd'hui les paramètres puisque le cessez-le-feu ayant été abandonné avant, oui, qui amènerait à une possible démilitarisation. Mais on est vraiment en phase en fait de discussion. Et on n'est pas du tout en phase d'arrêt des combats.
Merci à tous les deux. Je rappelle donc le bilan de ces frappes russes de ces dernières heures. 17 civils tués parmi lesquels quatre enfants. Bilan qui pourrait être revu encore à la hausse dans les heures qui viennent. J'ajoute également cette déclaration il y a quelques instants du chancelier allemand qui est en train de rencontrer Emmanuel Macron au fort de Brégançon. Il est évident qu'il n'y aura pas de rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, dit le chancelier allemand ce soir. Merci à tous les deux. Il est 19h19. On va passer à présent au débat du soir avec cette question. À quoi joue François Bayrou, le Premier ministre, vous le savez, joue sa survie à Matignon en ce moment. Il a besoin de rallier une partie des oppositions et de convaincre également les Français. Mais hier soir sur TF1, en quelques mots seulement, sur les boomers responsables de la dette et sur ses opposants qui étaient en vacances pendant l'été, pendant qu'il planchait lui sur le budget, le Premier ministre a jeté un petit froid supplémentaire. Pour en parler ce soir, j'accueille sur ce plateau Bruno Jeudy, le directeur délégué de la Tribune Dimanche, éditorialiste à BFM TV.
Bonsoir Marc.
Bruno, à vos côtés, Éric Woerth, député Ensemble pour la République de l'Oise. Bonsoir Monsieur Woerth, ancien ministre du Budget et des Comptes Publics, et Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui publie, je le signale, le livre « S'engager » chez Flammarion. On va en parler, parce que vous avez un petit passage dans le livre qui est assez dur, on va dire, sur vos relations avec Emmanuel Macron. Fais monter le suspense. Bonsoir, bienvenue. Alexander Nikolic, député européen, porte-parole du Rassemblement National, nous rejoindra dans quelques minutes. Bruno, jeudi, on va d'abord écoutez, si vous le permettez, ce qu'a dit précisément François Bayrou hier soir au sujet des boomers, ce qu'il en a redit aussi aujourd'hui, interrogé en marge du rassemblement du MEDEF, car il est un tout petit peu revenu sur ses propos.
Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Tout ça pour le confort de certains partis politiques.
Merci.
Et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considère que, ma foi, tout va très bien.
Non,
vous déformez ce que j'ai dit. Ceux qui devraient être en première ligne pour protéger les plus jeunes, c'est la génération précisément de ces années de l'après-guerre. Ils ont travaillé, mais il faut qu'ils protègent les plus jeunes. Et c'est exactement ce que j'ai dit, et rien d'autre. J'ai même dit à plusieurs reprises que je ne voulais pas cibler les retraités.
Bruno Jeudy, on l'avait juste mal compris.
C'est une maladresse, oui et non, Marc, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que on a l'impression quand même que depuis cet été, il est inhabituellement brutal dans ses propos. Il a tendance à se mettre un peu tout le monde à dos, méticuleusement, j'ai envie de dire. Hier soir, c'est les boomers, hein, c'est seniors peut-être.
Ne me regardez pas comme
un
ça.
Un peu aisé. Oh, bah, c'est plutôt moi. Un peu aisé qui pense que tout va bien, qu'on va continuer à payer pour eux tout le temps sans se, mais en même temps, non, parce que c'est aussi courageux de la part de François Bayrou. On sait que c'est un discours qui est difficile à tenir pour les politiques, mais bon, voilà, il a trouvé des images marquantes, les fameuses 5000 euros par seconde de dépenser, où la France s'endette davantage et plus. Mais bon, le problème, c'est qu'à force comme ça de multiplier comme ça les attaques contre plusieurs catégories de Français, il y avait eu les jours fériés, c'est très très mal passé. Là, cette fois-ci, c'est les boomers. On a l'impression qu'il charge quand même beaucoup la barque.
D'autant qu'il y a eu un autre passage hier soir sur TF1, celui sur les chefs de file de l'opposition qui étaient en vacances cet été, ce qui expliquerait, selon François Bayrou, qu'il n'a pas pu leur parler et avancer ses propositions sur le budget. Là encore, maladresse ou faute politique?
Alors là, c'est totalement inutile, contre-productif. Il vexe les chefs de parti. Et en plus, il n'a pas tout à fait raison. Marine Le Pen lui a répondu sèchement, puisqu'elle avait envoyé une lettre le 25 juillet. Et c'est vrai qu'il n'y a pas répondu. Alors bon, c'était le 25 juillet. Et les socialistes, chacun, enfin tous les cas, dans les coulisses, on sait qu'ils parlent beaucoup avec Éric Lombard notamment, donc c'est pas tout à fait vrai. Et là, pour le coup, on a l'impression que François Bayrou, ça illustre un peu cette méthode cette semaine, où il a tenté un coup de poker lundi, préparé dans le grand secret de Matignon. Il en avait parlé au président, il a eu l'aval du président. Il a prévenu ses ministres 10 minutes avant. Moi, il y a un ministre très important qui m'a dit « j'ai cru » quand il l'a annoncé qu'il avait un deal secret avec les socialistes. Pas du tout.
Il semble que non.
Il semble que non. En tous les cas, pour l'instant, c'est quand même ce qui a l'air de ressortir. Et depuis, on voit bien que François Bayrou se trouve un peu, comment dire, à vouloir rattraper quelque chose qui est mal parti. C'est-à-dire, il pose ce vote de confiance, son opération vote de confiance, qui est vraiment le truc le plus difficile à réaliser. Hein. Pas de majorité. Et il a même pas passé un coup de sonde au RN et au PS. Donc, très compliqué.
Éric Woerth, il enchaîne les boulettes, le Premier ministre, là ?
Non. C'est très difficile de parler d'effort. C'est très, très difficile de dire aux Français, d'une manière générale, il n'y a qu'une seule France, il n'y a qu'un seul peuple français. Il y a des gens qui sont dans des situations évidemment différentes. Mais il y a au moins un sujet qui devrait être un sujet de consensus, c'est que nos finances publiques, elles doivent être redressées. Et ça ne se fera pas en un claquement de doigts.
Mais ça ne se fera pas forcément en disant « mes opposants sont en vacances pendant que je travaille » ou « c'est la photo boomer ». Ouais.
J'ai entendu des insultes pires que ça, je veux dire des agressions pires que ça, franchement.
Il n'y a pas mort d'homme, on est bien d'accord. Ouais.
Quand il parle des boomers, j'en suis un aussi, peut-être même un super boomer, je ne sais pas. Non, je ne suis pas vexé, mais il a raison. Chacun a ses mots, mais il a raison. La justice intergénérationnelle, c'est fondamental. Il n'y a pas de modèle, il parlait surtout des retraites, il n'y a pas de modèle par répartition sans justice entre les générations. Si vous ne l'acceptez pas et si vous n'en tirez pas les conséquences, vous ne réformez pas correctement un système de retraite pour le rendre durable et puis qui permette aux retraités de vivre décemment. Et ça ne peut pas être au prix des générations d'actifs.
Cette question des privilèges, entre guillemets, des boomers, on se les posait évidemment aujourd'hui en préparant cette émission. Je voudrais qu'on accueille Raphaël Grably pour le Radar BFM TV. Bonsoir Raphaël, prenez place à cette table. D'abord, petite précision de lexique, un boomer, c'est qui ?
Oui.
Quel âge ? Quelle année de naissance ?
Oui, déjà, petit
Raphaël. Ne regardez pas Raphaël comme ça, Bruno Jeudy, oui, s'il vous plaît. Régalez avec bienveillance.
Bruno, non, un boomer, je rappelle déjà factuellement, évidemment, ça vient du baby boom, donc c'est grosso modo, tous ceux qui sont nés entre 1945 et 1965, 68, ça dépend un petit peu des définitions. Donc finalement, les 60-80 ans, c'est pour ça que quand François Bayrou rétropédale aujourd'hui en disant qu'il s'attaque pas tout à fait aux retraités, c'est quand même difficile de se dire que les 60, 80, 85 ans, c'est pas vraiment des retraités.
Bon, maintenant, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette génération, qui va quand même sur 20 ans, est privilégiée, avantagée en tout cas par rapport aux autres ?
Alors, forcément, du coup, on a regardé les retraités. Il y a plusieurs critères. Si on regarde déjà le critère du niveau de vie, il y a des chiffres de l'INSEE, alors qui datent de 2021, parce que des chiffres à ce niveau-là, il y en a pas tous les ans. L'ensemble des Français, c'est une base 100%. Les retraités, ils sont à 105%. Donc effectivement, ils vivent à 5% de plus, mieux, enfin ils vivent mieux que l'ensemble des Français, mais légèrement en dessous des actifs qui sont à 7,5% en plus au-dessus de l'ensemble des Français. Après, un autre facteur qu'on comprend tous aisément, c'est le niveau de pauvreté. Oui. Et là, il y a des chiffres de l'INSEE de 2023, un peu plus récents, 11,1% de taux de pauvreté chez les retraités contre 15,4% pour l'ensemble des Français. Donc là, c'est très en dessous. Et puis, il y a quand même un dernier point.
Ça donnerait plutôt raison à François Bayrou.
Exactement, ouais. Ça donne plutôt raison à François Bayrou. Et un autre élément qui donne quand même plutôt raison à François Bayrou, dans l'inégalité entre les âges et les générations, c'est le taux de cotisation. C'est vrai que les boomers, comme on dit, les retraités, ils ont plutôt moins cotisé que les actifs d'aujourd'hui. C'est normal, ils étaient plus nombreux, il y avait moins de retraités, donc c'était plus facile. En quelque sorte, on peut dire qu'ils ont payé un peu moins cher leur retraite, même beaucoup moins cher leur retraite, que les actifs d'aujourd'hui vont payer la leur.
Finalement, Marie-Lise Léon, il a un peu raison, François Bayrou, c'est-à-dire démographiquement, il y a de plus en plus de personnes à la retraite, de moins en moins d'actifs, donc forcément, les actifs ont une charge plus lourde.
Oui, j'entends bien la discussion autour de boomer. Oui. Est-ce qu'on en est ou pas ? Moi, je pense que la question qui se pose aujourd'hui dans la construction d'un budget pour 2026, c'est la question de la répartition des efforts. Et donc, la question n'est pas tant de savoir s'il faut des actifs, des retraités. C'est que c'est tout le monde qui est concerné, y compris les retraités qui le peuvent. Et je pense que vous l'avez très bien souligné, il y a certainement des retraités qui peuvent se permettre des efforts, de contribution à cet effort national. Et d'autre part, je pense que parmi les 11% de retraités qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est un effort inacceptable. Oui, et donc la question, et ce que je regrette profondément, c'est qu'au-delà de savoir s'il y a des boulettes ou des coups de poker ou de jeux à pile ou face, Le problème, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. C'est quoi le budget de 2026? Et on est malheureusement à la fin du mois d'août. Il y a eu des annonces fracassantes. Moi, j'estime que le Premier ministre a plutôt passé le lance-flamme en termes de propositions.
C'est quoi, les deux jours fériés?
Aujourd'hui, ça a un petit peu, je l'ai qualifié de musée des horreurs. On a quand même eu un ensemble de mesures extrêmement difficiles et inacceptables, notamment pour le monde du travail que je représente. Et puis, une très grande difficulté à regarder où était le partage des efforts, justement. Alors, on va m'expliquer que maintenant, les discussions, elles vont démarrer. Je regrette profondément qu'on en soit toujours là fin août.
Eric Woerth, c'est pas trop tard?
Non, pas du tout. Enfin, c'est assez classique. On n'a jamais été autant informé. On est encore au mois d'août. On n'a jamais été autant informé sur un budget que sur celui-là.
Certes, le Premier ministre, le chef du gouvernement, mais pas
le Premier ministre. Il est en face. Il est en face quand même d'une situation où il doit régler ce sujet. Et il doit le régler sur plusieurs années. Il doit. Vous avez raison. La question, elle n'est pas est-ce qu'on doit faire des efforts. C'est la répartition de l'effort entre les uns et les autres, entre les entreprises et les ménages, entre les vieux et les jeunes. Entre les pauvres et les riches, etc., etc. Tout ça, oui. Mais la vérité est qu'il va falloir faire des efforts. C'est qu'on aura à un moment donné chacun un effort à faire. Et cet effort, il n'est pas uniquement sur des prestations sociales à réduire ou sur une fiscalité à augmenter sur peut-être les plus élevés. C'est comment on fait pour essayer de créer rapidement une force de travail supplémentaire. Comment on fait pour tenter de réduire le chômage. Comment on fait pour essayer de rentrer un peu plus tôt sur le marché du travail et sortir un peu plus tard du marché du travail. C'est les sujets qu'a abordé François Bayrou et il le fait avec quand même pas mal de pédagogie. Pardon, à Pâques, il a fait un truc qui était très intéressant, qui était d'essayer d'expliquer pédagogiquement les situations financières, des finances publiques du pays. Et puis là, au fur et à mesure du temps, au mois de juin, il a fait un travail très important et un discours dans lequel il a cité un certain nombre d'axes prioritaires. Et puis après, il a fait une conférence au mois de juillet pour dire les mesures qui pourraient être prises, en disant ces mesures, elles sont indicatives, je vais les mettre au débat. Alors l'été a passé, je vais les mettre au débat. Et là, il pose une question auquel chaque parti politique, au fond, à l'Assemblée nationale, devra répondre. Est-ce que oui ou non, le sujet de notre souveraineté financière est un sujet prioritaire? Si certains considèrent que c'est pas un sujet prioritaire, eh ben, ils en porteront la responsabilité. Si d'autres ont le courage de dire oui, c'est un sujet prioritaire, et on va entrer dans le débat, budgétaire, au moins sur cette base, je l'espère, consensuelle. Voilà ce qu'ils cherchent.
Vous posez la question, c'est pas tout à fait la question qui sera posée aux députés le 1er septembre, puisque c'est la question de la confiance. Donc, politiquement, on a l'impression qu'il a pris le risque maximum, alors que hier soir, il est expliqué un peu comme vous
le
disiez.
Bruno, je dis, c'est parce que le terme, il est constitutionnel. C'est un mauvais terme, en réalité. Je comprends très bien que c'est très difficile pour le Rassemblement national ou pour les socialistes de dire on fait confiance à François Bayrou. Mais c'est un terme constitutionnel. Ça veut dire oui, et en réalité, les députés répondront à un discours du Premier ministre où il fixera les choses et où il leur dira, voilà, j'engage, au fond, la responsabilité de mon gouvernement sur la base de cela. Et je pense que ce sera sur la base de l'idée que la France, elle a besoin de réagir avant que d'autres ne réagissent pour elle. Elle a besoin de réagir de façon souveraine, avec un effort populaire vaste et un effort clairement et justement réparti entre les uns et les autres.
Marie Dion, je le disais dans le livre que vous publiez, vous revenez sur vos relations de chef du premier syndicat de France, avec le président de la République. Vous dites que vous l'avez rencontré en septembre 2023. Une fois, vous veniez d'arriver à la tête de la CFDT, ça a duré trois quarts d'heure, et depuis, plus rien. Mm-hmm. Pas une rencontre, pas un coup de fil. Vous dites, je suis même pas sûr qu'il ait mon numéro de téléphone aujourd'hui, et j'ai pas le sien. Et j'ai compris que pour lui, le dialogue social est une perte de temps. Ça, c'est féroce.
Non, je pense que c'est une réalité. Enfin, si on est entre adultes, on est capable aussi de se dire les choses. D'ailleurs, je reviendrai sur le. Moi, je suis en phase avec un certain nombre d'éléments qu'a pointé François Bayrou, notamment sur l'inquiétude qu'on doit avoir collectivement sur la dette et le déficit. Sur le montant des économies, je pense que il y a une forme d'exagération, parce que 44 milliards d'euros, c'est extrêmement brutal, notamment au rythme auquel ils souhaitent la diminution du déficit. Et je pense qu'il y a dans le diagnostic des éléments avec lesquels nous ne sommes absolument pas d'accord. Vous évoquiez tous les deux la question du travail. Il faut travailler plus. Lorsqu'on nous dit en France, on travaille en moyenne moins que nos voisins européens en taux, en nombre d'heures par semaine, c'est surtout qu'on ne compte que les personnes qui sont en contrat à durée, qui ont des contrats de travail qui leur permettent d'avoir des temps complets. Le problème du temps de travail. Non, c'est à temps complet. Oh. Ceux qui sont à temps complet. Quand on intègre des personnes qui sont à temps partiel, on n'est pas du tout sur les mêmes, les mêmes moyennes. Et donc, en fait, le diagnostic, il faut aussi être clair. Et je pense qu'il y a des priorités aujourd'hui. C'est la question du travailler tous et du travailler mieux. Et que la question du travailler plus n'est pas la question prioritaire. Et puis, je reviendrai sur mais je pense que c'est pas forcément un scoop non plus de dire que le président de la République a une vision extrêmement verticale et que c'est pas un convaincu du dialogue social. Je le dis dans le livre, mais je dis pas que ça. Je dis aussi d'autres choses sur mes relations avec
d'autres
responsables politiques et les responsables d'entreprise.
Un tout petit mot sur la journée du 10 septembre, l'appel à bloquer le pays. La CGT soutient ce mouvement, pas vous, pas la CFDT. Non, non. Pourquoi ?
Moi, je suis l'initiative de ce mouvement du 10 septembre, c'est un mouvement citoyen qui a pour mot d'ordre de tout bloquer et d'appeler à la désobéissance.
Et ça, c'est pas la règle à la CGT.
Ça n'est pas nos méthodes.
Donc encore moins l'appel à la grève générale de Jean-Luc Mélenchon.
Avec une question qui est extrêmement importante, c'est qu'on parle aujourd'hui des éléments relatifs au budget. Moi, je veux exprimer aussi ici la grande colère. On parlait d'exaspération, maintenant moi je parle de colère, d'une colère froide ou chaude, en fonction des secteurs d'activité. Je pense notamment à une colère qui monte et qui bouillonne aujourd'hui de la part des essentiels, les personnes qui ont été au rendez-vous au moment du Covid, au moment du confinement, et après à qui on a dit on va reconnaître que vous avez été indispensable à la nation et qui attendent toujours cette reconnaissance. Ça c'est
10 milliards d'euros sur les hôpitaux, madame.
Non, mais là je vous parle des essentiels et donc des personnes, ça ne concerne pas que les personnes qui travaillent à l'hôpital. Des aides à domicile. Non, mais je ne dis pas que rien n'a été fait. Je dis qu'à ceux surtout celles qui se sont engagées et qui ont été au rendez-vous, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Et que quand les promesses ne sont pas tenues, il y a de la défiance. Et quand on arrive à une situation importante comme aujourd'hui sur la construction d'un budget, il y a une exaspération, voire même une colère. Et quand on est responsable syndical comme je suis, moi, c'est d'entendre cette colère. Ça fait partie des expressions, des revendications dans ce mouvement du citoyen, j'insiste, initialement du 10 septembre. La CFDT, on organise une intersyndicale demain matin chez nous pour pouvoir discuter. On proposera une date et on donnera un cadre.
À ce moment-là, et ce sera après.
Et on donnera un cadre clair sur quelles revendications on porte, à quelle date et dans un mot d'ordre qui permette, dans un cadre sécurisé, à tous ceux et celles qui veulent manifester avec nous, de le faire au mois de septembre.
Merci beaucoup, Marie-Lise Léon. Je crois que vous devez nous quitter. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de BFM. Aleksandar Nikolić, qui est l'un des porte-parole du Rassemblement national et député européen, va s'asseoir à votre place, à votre siège dans un instant. Bonsoir. Bienvenue, monsieur Éric Woerth, vous restez bien évidemment sur ce plateau, tout comme Bruno. Jeudi, vous avez entendu monsieur Nikolić, le Premier ministre, hier soir sur TF1, dire...
Oui.
Tout est négociable. Tout est négociable, à part l'ampleur de l'enveloppe des économies qu'il faut faire, 44 milliards d'euros. Est-ce que vous dites, banco, on négocie ?
Non mais nous, on a fait des demandes le 25 juillet dernier, on n'a même pas eu de réponse à notre courrier. Et il dit tout est négociable, mais il s'avance déjà sur certaines choses. On voit qu'il veut toucher aux retraités et qu'il oppose les actifs et les retraités. C'est un axe qui est défini et c'est un axe qui montre qu'il ne nous écoute pas parce que nous, on a fixé des priorités. On a dit que, par exemple, il fallait faire des économies sur l'immigration, notamment avec une préférence nationale qui dit que quand on arrive en France, on ne bénéficie pas d'aide sociale immédiatement. Je le dis parce que c'est 18 milliards d'euros. De dire qu'il faut, quand on est étranger, avoir travaillé, cotisé durant 5 ans pour bénéficier d'aide et de prestations sociales. Eh bien, Monsieur Bayrou, quand il parle des retraités, il choisit plutôt, lui, de s'en prendre aux retraités plutôt que même à des clandestins, par exemple, parce qu'il ne veut pas toucher à l'AME. C'est pareil sur l'Union européenne. On lui a demandé qu'il fallait stopper cette hausse continue de la contribution de la France à une Union européenne qui joue contre nous de plus en plus. On l'a vu avec Mme von der Leyen qui signe l'accord du Mercosur contre les intérêts français ou qui négocie avec Donald Trump contre les intérêts français. Et nous, on leur lui donne toujours plus pour jouer contre nous. On voit l'absurdité, mais M. Bayrou préfère apparemment taper sur les retraités.
Éric Woerth, on a compris que François Bayrou tendait la main à une partie de la gauche. Est-ce qu'il tend aussi la main au Rassemblement national ou vous dites hors de question, pas de ça chez nous.
Il tend la main à tous ceux qui veulent sur ces être mesures-là. À un moment donné en responsabilité.
C'est-à-dire que sur les mesures.
Mais l'immigration a un coût, il faut limiter ce coût, mais l'immigration a son utilité aussi. Enfin, c'est un sujet plus compliqué que ce que vient de dire.
Moi, j'ai été très précis. Monsieur Bayrou, lui, il a été très simple. Il a dit qu'il ne voulait pas de référendum sur l'immigration. C'est un moyen de sortir.
Pas trop interrompu.
Il y a une règle sur ce plateau qu'on essaye de
faire. Je note en fait systématiquement de la part des partis les plus populistes. C'est-à-dire ceux, au fond, qui suivent l'opinion, parce que c'est tellement plus simple que de dire, quand on on essaie de dire il faut faire des efforts. Probablement, on a dépensé trop. Alors, personne n'a jamais été opposé aux dépenses. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils en demandent des dépenses supplémentaires. Voilà. Bien sûr, on a dépensé trop. Grosso modo, 1000 milliards d'endettement tous les 10 ans depuis à peu près 20 ans. Donc, c'est trop. Et il faut arrêter cette dérive. Et il faut pour ça revoir en partie le modèle social. Il faut revoir le coût, la productivité des administrations, etc., etc. Mais on peut pas passer son temps uniquement à faire des études. Il faut aujourd'hui passer à l'acte. Et ce que propose François Bayrou, c'est de passer à l'acte dès maintenant, à hauteur d'une quarantaine de milliards, et d'avoir une programmation sur plusieurs années. Mais chaque fois qu'on annonce une proposition d'économie, il y a ce type de discours hein, qui est absolument classique, qui est de dire « oui, oui, nous on est d'accord, il faut une souveraineté financière avec nous, ce sera, mais pas comme ça ». Pas comme ça. C'est toujours
non.
les autres.
Mais non, mais
c'est toujours autrement.
Monsieur
c'est
Vert.
Toujours différemment.
Vert,
là, il y a une lettre. Il y a une lettre qui a été écrite le 25 juillet avec un programme formidable. Moi, je vois simplement que le Rassemblement national, il est systématique. Il ne sait pas exact. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire sur le plan économique et social.
Ah bah c'est
vous
très clair.
Ne le savez pas.
C'est très clair. Nous,
comme
par exemple,
vous ne le savez pas,
on n'aurait pas.
Vous vous adaptez au fur et à mesure.
On veut supprimer les impôts de production que vous avez créés en 2010 dans un gouvernement dans lequel vous apparteniez, je crois.
Oui, vous
les impôts de production qui font.
Vous savez qu'on avait supprimé la taxe professionnelle. On ne va pas faire de l'archéologie. Politique.
Bah, la CVE,
On a supprimé la taxe professionnelle.
Le gouvernement de M. Sarkozy, entre 2007 et 2012, a fait augmenter la dette de 25% et les dépenses publiques ont augmenté de 4,8%. Oui. Moi, je veux bien qu'on arrive et qu'on dise le Rassemblement national, je ne suis pas d'accord.
Non,
mais nous, avec
okay,
nous.
Vous n'avez jamais exercé de responsabilité.
Très bien. Et vous avez échoué. Et vous avez échoué.
On a essayé d'être à la hauteur de ses responsabilités. Et derrière, on a été élu quand même. Je souhaitais vous le dire.
Ah, bah, vous n'avez pas été réélu ensuite.
Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire sans arrêt c'est les autres qui paieront. Et au contraire, en réalité, tout le monde doit faire des efforts. Ces efforts, ils doivent être justement répartis. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit des entreprises.
Et vous demandez aux Français de payer vos erreurs.
Mais les Français, ce ne sont pas nos erreurs, monsieur.
Si, c'est vos erreurs. Oui. Ce sont vos erreurs.
Vous êtes bien insolent quand même en disant cela.
Ah bah non,
ça.
Mais je vous confirme que si on arrive aujourd'hui dans une situation.
Bien sûr qu'il y a des erreurs.
On a un déficit commercial.
Qui n'en fait pas? Qui n'en fait pas? La France n'est pas telle que celle que vous représentez aujourd'hui.
Merci.
La France, elle est plus solide et elle est plus responsable
c'est
que
pas
vous ne
merci,
croyez.
Les
vous
jouez sur merci les beaucoup, je vous interromps. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de BFM TV. Tout ça fait sourire. Bruno, je dis qu'il y en a vu d'autres dans la vie politique française. Merci,
merci
d'être venu ce soir. Il est 19h40, vous regardez 60 minutes et j'accueille à présent François Ruffin qui est notre invité. François Ruffin, député Nouveau Front Populaire Debout de la Somme. Vous laisse nous rejoindre. Bonsoir à vous, Monsieur Ruffin.
Bonsoir à vous.
François Bayrou a pointé hier soir la responsabilité des boomers, ceux qui sont nés donc entre la fin de la guerre et le milieu des années 60, qui ont selon lui creusé la dette et qui aujourd'hui considèrent que tout va bien. Il a précisé aujourd'hui qu'il ne ciblait pas les retraités. A priori, vous n'êtes pas visé puisque vous êtes né en 1975. Est-ce que vous l'avez pris un peu pour vous quand même cette remarque?
Non, pas du tout.
Mais ceux qui s'en fichent un peu de la dette en disant j'essaie de retrouver la... pas Simone, le bateau flotte encore, pour reprendre les mots.
Vous savez, moi, ça fait des années et des années que je lance l'alerte sur la dette. J'appartenais à la Commission nationale sur la dette publique parce que je considérais que les choix qui est politique fait par Emmanuel Macron et par Bruno Le Maire à l'époque étaient désastreux pour le pays et qu'il fallait une autre orientation.
Donc sur constat au moins, même si sur les moyens d'en sortir, vous n'êtes pas d'accord, mais sur le constat, c'est oui.
Les économistes, et y compris... la Cour des comptes devant la commission d'enquête, c'était que la hausse du déficit public était due à la baisse des recettes. On avait baissé de 1,57 point les recettes publiques et ça avait produit 1,7 point de déficit public supplémentaire. Donc la cause était identifiée, c'était les baisses d'impôts en série, en cascade, menées par Emmanuel Macron et les gouvernements
successifs. Donc si vous arriviez un jour au pouvoir... l'un de vos objectifs serait de réduire la dette. On a entendu un son de cloche un peu différent chez Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours, disant après tout, ce sont des investisseurs étrangers qui possèdent la dette française, ça n'est pas une priorité.
Non. Alors, on a pondu, nos experts ont travaillé pendant tout l'été pour produire un plan de redressement, y compris sur le plan budgétaire, où on affiche qu'on veut une réduction de la dette pour l'année prochaine de 0,7 points. Donc c'est deux fois moins que les 44 milliards de François Bayrou, mais évidemment, on veut cette réduction-là parce que c'est mauvais pour le pays aujourd'hui. Ça signifie quoi? Ça veut dire que les Français, au fond, à la place de construire des écoles et des hôpitaux, payent des rentiers et des financiers. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, il faut une réduction de la dette. Elle peut pas se faire de manière aussi brutale que le souhaite François Bayrou, mais François Bayrou, il faut en parler au passé. Mais elle peut pas.
C'est fini pour vous, François Bayrou.
Ah oui, son sort est scellé, les dés sont jetés. À Matignon, je pense qu'il doit préparer ses cartons et prendre un billet d'avion maintenant. Donc, c'est le passé.
Mais vous êtes certain, pardon, je rebondis à ce que vous dites, que celui ou celle qui lui succédera dans quelques jours mènera une politique dont vous serez plus proche?
Je n'en suis pas certain. Je veux vous dire, Marc Fauvel, que nous sommes inscrits dans une crise fiscale dans la durée. Il y a des choix qui ont été effectués non seulement depuis les 28 années d'Emmanuel Macron, la politique de l'offre qui s'est révélée injuste, ruineuse et inefficace, mais en vérité pendant les dernières décennies. Et le grand enjeu aujourd'hui, c'est qui va payer ? Qui va payer ? Est-ce que ceux qui vont payer, ce sont les malades de longue durée ? Vous voyez, c'est des gens dans ma circonscription qui viennent me voir, qui souffrent du diabète, qui souffrent d'un cancer, en disant « Mais attends, c'est encore moi, la maladie, déjà, est source de pauvreté. » Et ils viennent me dire « C'est sur moi, c'est moi qui vais devoir contribuer. » Ce sont les salariés à qui on va demander encore davantage payer alors que l'inflation est venue grever leur budget, ou ce sont les retraités pris tout azimut dans leur globalité. Ou alors, eh bien, ce sont les riches qui doivent payer, les ultra-riches, ce sont les grandes fortunes, ce sont les gros patrimoines. Et vous savez, aujourd'hui, quand on regarde dans tous les sondages, c'est 8 Français sur 10 qui disent « oui, nous souhaitons une contribution des plus grandes fortunes de notre pays ».
Je vous repose ma question sur est-ce que vous êtes sûr que l'après Bayrou, s'il n'est plus là dans quelques jours, sera meilleur pour vous que la politique actuelle? Est-ce qu'il est entièrement inimaginable que si François Bayrou démissionne au soir du 8 septembre, Emmanuel Macron nomme un responsable d'un parti qui est le premier parti à l'Assemblée nationale qui s'appelle le RN? Thierry Breton émet cette hypothèse aujourd'hui, par exemple, en disant « on n'y arrive pas avec le bloc central, la gauche est divisée, allons voir chez le premier parti ».
Vous savez, ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est imprévisible. On l'a vu avec une dissolution improvisée l'année dernière, qui nous a amené, en plus, là, du chaos budgétaire, dans un chaos politique. Donc, je veux pas me placer dans la psychologie bien compliquée d'Emmanuel Macron.
Mais vous souhaitez que la gauche revendique Matignon dès le 8 juin ou pas?
Moi, je souhaite qu'il y ait une... Je m'en fiche de l'étiquette. Je m'en fiche du nom et du prénom. Je m'en fiche des ambitions. Ce que je
vous
demande...
Vous fichez de l'étiquette jusqu'où, pardon? Quelqu'un du centre ou de la droite, vous...
Ce que je demande, nous sommes dans une crise fiscale profonde, je le répète. Et vous savez, la Révolution française est née d'une crise fiscale. En 1788, le roi a vidé ses caisses pour mener la guerre d'indépendance aux États-Unis aux côtés des Américains contre notre ennemi héréditaire, l'Angleterre.
Il y avait eu aussi quelques mauvaises récoltes les années précédentes.
Il dit, voilà, j'ai besoin de lever des impôts, je réunis les États généraux. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans une situation de crise fiscale profonde qui doit se résoudre soit en allant taxer les retraités, les salariés, bref, ce qu'on fait depuis des années et des années, soit en se disant, cette fois, on va aller chercher chez les grandes fortunes. Vous savez, c'est sur votre plateau.
Je repose ma question, François Ruffin.
Allez-y.
Il faut des idées, il faut un programme et il faut des personnes pour l'incarner. Qui aujourd'hui, qui demain, le 8 ou le 9 juin ou les jours d'après, si ça traîne un peu, peut arriver à Matignon, appliquer un programme qui est peut-être celui que vous appelez de vos voeux ce soir, sans être censuré dans les 3 mois? Qui aujourd'hui? Peut être une personnalité de gauche,
Demande que soit tranchée l'orientation. Je demande que soit tranchée l'issue, le débouché qu'on souhaite donner à cette crise fiscale. Est-ce que on va aller chercher l'argent là où il se trouve? C'est sur votre plateau que vous avez eu, à BFM, le rédacteur en chef de Challenge, au moment de la sortie de leur classement des 500 fortunes françaises, palmarès édité depuis 30 ans, et qui disait, voilà, leur fortune a été multipliée par 14, pendant que, le même temps, le SMIC n'a pas doublé. On a Bernard Arnault, mon ami Bernard Arnault, qui touche 3 milliards d'euros de dividendes et qui, là-dessus, ne paye pas d'impôts parce qu'il part par des sociétés d'écran et des holdings. Est-ce que c'est là-dedans qu'on va aller chercher de l'argent, c'est-à-dire dans ceux qui
peuvent... Pardon, ça ne répond pas à ma question, François.
Ça y répond, monsieur.
Qui peut mettre en place ce programme demain? Est-ce que la gauche, vous connaissez les relations, je ne vais pas vous refaire le film ici, entre les Insoumis, qui est votre ex-parti, vous n'y êtes plus aujourd'hui, le Parti Socialiste, qui aujourd'hui peut aller incarner cette ligne? Qui est la personne qui peut rassembler la gauche et au-delà, parce que la gauche, elle n'a pas la majorité absolue?
Je ne veux pas jouer au petit nom, mais je vous dis que l'orientation que je propose ce soir est une orientation qui est très largement majoritaire dans le pays et qui possiblement, si jamais Emmanuel Macron faisait sauter son verrou pour être majoritaire à l'Assemblée aussi. On a vu que la taxe Zucman de 2% de prélèvement sur les patrimoines a été votée à l'Assemblée nationale. Mais on a vu y compris des centristes comme Jean-François Mattei, président du groupe Modem, qui est venu dire à un moment, bah oui, il faut une taxe sur les dividendes, il faut une taxe sur les grands patrimoines. Eh bien, je crois qu'il y a aujourd'hui une volonté populaire profonde d'aller dans cette direction. Vous savez, je vois la possibilité d'une dissolution. Je dis, c'est une chance que nous avons que la grande question qui soit posée aujourd'hui, ça soit la question fiscale. On a enfin la question fiscale.
Vous l'appelez de vos voeux, la dissolution ?
Je vois que c'est une issue. Je vois qu'il y a un an, la dissolution était une folie de Macron. Je vois qu'aujourd'hui, ça serait une suite
logique.
Qu'est-ce
qui vous fait dire que le RN va pas tout remporter en cas de dissolution?
Je dis que dans ce cas-là, aujourd'hui, la grande question qui est posée est la question fiscale. Et que quand on voit que, par exemple, le Rassemblement national...
Je sais pas si vous étiez avec nous il y a quelques minutes, le porte-parole du RN était là. Il est d'accord avec vous pour dire, et avec beaucoup de monde d'ailleurs, pour dire la dette, il y en a trop aujourd'hui. Mais lui, il dit, on va s'attaquer aux aides pour les étrangers, notamment. Sur le constat, il y a presque unanimité.
Admettons que le constat sur le fait qu'il y a un déficit public qui est gigantesque dans notre pays. Et je veux dire, monsieur Fauvel, que ce déficit, il est le fruit de la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui réduit de 58 milliards d'euros ISF, flat tax, exit tax, puis ensuite, après la crise Covid, je veux dire que je ne remets pas en cause le coûte que coûte de la crise Covid, mais après la crise Covid, on en rajoute, on supprime la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, on baisse l'impôt sur les sociétés. J'accuse monsieur Fauvel, j'accuse monsieur Macron d'avoir ruiné notre pays. Mais j'accuse monsieur Macron en plus de l'avoir fait exprès. De l'avoir fait délibérément, de l'avoir fait méthodiquement.
Délibérément ?
Oui.
C'est-à-dire
que chaque fois qu'il a fait le choix de supprimer ces impôts-là, sans qu'il y ait des ressources en face, quand il fait le choix de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, de supprimer l'exit tax, de mettre en place la flat tax, que tout ça, ce sont des cadeaux faits aux plus riches de ce pays, que derrière, il poursuit, derrière les milliards qu'on a dépensés pendant la crise Covid, qui poursuit avec la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui poursuit avec la réduction de l'impôt sur les sociétés, il ruine notre pays, et je vous dis qu'il le fait consciemment, qu'il le fait délibérément. Il le fait pourquoi ? Parce que ça s'appelle la politique des caisses vides. C'est un choix qui est fait par les libéraux, qui a été énoncé par Reagan, qui a été énoncé par des intellectuels comme Guy Sorman, qui a été annoncé par un certain nombre de ministres des affaires économiques dans les pays libéraux. C'est quoi ? On vide les caisses de l'État, comme ça, derrière, on peut mettre en place une politique du choc qui va faire que on va être obligé de s'en prendre à tout ce qui est de l'ordre des politiques sociales, tout ce qui est de l'ordre des politiques publiques. Donc ce soir, sur votre plateau, Marc Fauvel, oui, j'accuse Emmanuel Macron d'avoir ruiné notre pays et d'être l'homme du chaos budgétaire et de l'avoir fait sciemment à chacune de ses étapes.
Je vous entends, François Ruffin, mais tout cela ne répond pas à la question qui, à gauche, aujourd'hui, peut tenter de dégager une majorité. Je vous pose la question de manière très simple, il nous reste 10 secondes. Réponse en oui ou non, si vous le voulez bien. Si François Bayrou s'en va, serez-vous candidat à son poste ? Par oui ou non, s'il vous plaît.
C'est non.
Okay.
Non, parce pourquoi ? Que se dégage, monsieur Fauvel, dans cette assemblée, dans notre pays, la volonté claire de faire payer. C'est dans notre pays, les impôts, ça doit être les petits qui payent petits et les gros qui payent gros et pas l'inverse. Et il nous faut construire une volonté politique d'aller dans cette direction-là plutôt que de taper sur les salariés, les retraités et les malades de longue durée.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
François Ruffin d'être venu ce soir sur le plateau de BFM TV. Maxime Switek.
Bonsoir.
Vient de nous rejoindre. Bonsoir Maxime, au sommaire du 20h BFM.
On va vous montrer l'image politique du jour. Vraiment l'image politique du jour. Imaginez un débat avec Gabriel Attal, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Fabien Roussel. Ça a eu lieu cet après-midi. On va vous montrer toutes les images dans un instant. On parlera des orages aussi. Ça cogne ce soir en Corse. On a des records de pluie également du côté de l'Allier. Des coulées de boue du côté de Nice. On va vous montrer là aussi toutes les images dans le 20h BFM.
Restez avec nous.